BPM, élection régionale 2021.
Et bienvenue sur BPM Vernon. Si vous venez de nous rejoindre, le second tour des élections régionales aura lieu ce dimanche 27 juin. À cette occasion, BPM vous propose aujourd'hui une émission spéciale où nous recevons les 4 candidats au second tour de ces élections régionales de Normandie. Et nous commençons donc cette émission avec François Ozillot, candidat tête de liste du département de l'Eure sur la liste Normandie Terre d'Avenir menée par Laurent Bonnataire aux élections régionales de Normandie. Alors François Ozillot, bonjour.
Bonjour.
Alors, lors du premier tour des élections régionales de Normandie, la liste menée par Hervé Morin est arrivée en tête avec 36,86% des voix, suivie par Nicolas Bay avec 19,86%, Mélanie Boulanger avec 18,37% et Laurent Bonnataire 11,07%. On retrouve donc ces quatre listes pour le second tour et ensuite on retrouvait Sébastien Jumel avec 9,64%, Pascal Lemanac avec 3,14% et enfin Stéphanie Kerbar avec 1,06%. Vous, François Ozillot, vous avez 36 ans, vous êtes maire de Vernon, vous êtes donc arrivé en quatrième position lors de ce premier tour des élections régionales et vous êtes tête de liste du département de l'Eure sur la liste Normandie Terre d'Avenir menée par Laurent Bonnataire. Alors durant cette émission, on va aborder plusieurs volets des compétences de la région. Mais d'abord, on voulait revenir un petit peu avec vous sur ces résultats du premier tour. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces résultats ?
J'en tire deux conclusions. Une conclusion très localo-vernonnaise et une conclusion évidemment régionale. Pour ce qui concerne Vernon, c'est plutôt une très bonne nouvelle, puisque nous sommes arrivés largement en tête avec Laurent Bonnataire. Nous avons fait près de 39% à Vernon. C'est le meilleur score eurois et c'est le second en Normandie. Après la ville du tête de liste, Laurent Bonnataire à Caudebec-les-Elbeuf, qui lui faisait quasiment 60% dès le premier tour. Donc ça veut dire que les Vernonnais m'ont fait confiance dans ce choix, qui était un choix effectivement un peu osé, un pari, mais ils m'ont accompagné et donc je pense que c'est une reconnaissance du travail de terrain, de l'action, de la transformation qu'on a menée à Vernon depuis 2014 avec Sébastien Lecornu et toute l'équipe municipale que je tiens à remercier d'ailleurs une nouvelle fois pour toute la campagne exceptionnelle qu'elle a faite. Et puis ils ont cru aussi à mon envie d'une nouvelle méthode, de nouveaux visages et de nouvelles idées pour la région Normandie avec la liste que j'ai constituée dans l'Eure. Pour le niveau régional, évidemment, c'est un peu plus décevant, je vous le concède, mais c'est quand même une liste qui réalise l'un des meilleurs scores nationaux pour la majorité présidentielle. L'abstention est vraiment à regretter, évidemment, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dimanche prochain, et donc j'appelle tous les électeurs à se rendre aux urnes, parce qu'on peut complètement changer la donne dimanche prochain. Quant au président sortant, effectivement, il a été largement mis en tête par les électeurs, c'est sans doute, entre autres, grâce à son bilan, mais on peut aussi considérer qu'il n'améliore pas son socle électoral en 6 ans, et qu'au final, un Normand sur 10 a voté pour lui dimanche dernier. Donc moi, j'encourage les Vernonnais à confirmer ce score à Vernon, surtout à ne pas bouder l'isoloir dimanche qui arrive, tantôt dans quelques jours, à bien faire en sorte qu'il y ait toujours un représentant de la ville de Vernon, en l'espèce son maire, à la région Normandie. Ce sera bon pour les projets et pour continuer la transformation de Vernon. Aujourd'hui, je vous le dis et je le dis aux auditeurs, il y a vraiment un risque que la région, que Vernon ne soit plus représenté à la région Normandie.
Alors justement, vous avez parlé déjà de ce sujet de l'abstention qui a été très élevé encore une fois le week-end dernier. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il y a eu autant d'abstention et surtout, comment est-ce qu'on peut y remédier d'ici dimanche ?
Je pense que les Français, dans leur ensemble, n'étaient pas forcément aux élections. Ils ont bien d'autres préoccupations et je peux les comprendre. Ils ont passé une année difficile, plus d'une année difficile avec la crise du Covid-19. Qui se passe pas si mal aujourd'hui en termes de vaccination et en termes de déconfinement, c'est quand même à mettre au crédit, je pense, de l'État et du gouvernement. Et on peut leur en faire crédit, comme on peut leur faire crédit sur le quoi qu'il en coûte et sur tout le soutien à l'économie. On est un des pays qui l'a plus soutenu son tissu économique. Et je pense que c'est bien que les Français s'en rendent compte et s'en rappellent aussi quand ils vont voter. Il y a eu beaucoup de critiques pendant un an et demi, mais il y a eu des feuzeux et des diseux. Force est de constater que les feuzeux sont quand même au rendez-vous aujourd'hui et ça se passe pas si mal que ça. D'ailleurs, je viens de faire mon injection pour la vaccination. Après, il y a eu fortement un désintérêt aussi des compétences sur ces deux élections, départementales et régionales. Les gens ne comprennent pas bien à quoi ça sert. Pourtant, on fait des efforts de pédagogie à chaque élection. Le canton, c'est le social, c'est les routes, la région, c'est le train, c'est les lycées, c'est l'économie. On a beaucoup martelé ces messages ces dernières semaines avec Sébastien Lecornu, Catherine Delalande et Laurent Bonnater, évidemment. Mais voilà, je pense que les Français sont dans autre chose. On n'a pas eu de chance aussi sur la propagande électorale, hein, qui n'est pas arrivée dans un certain nombre de boîtes aux lettres. J'espère que le sujet sera corrigé pour le second tour. En tout cas, nous, à notre niveau, nous y avons veillé, mais nous ne sommes pas maîtres de la distribution. Elle a été confiée à un délégataire privé, donc nous verrons bien dimanche si tout le monde l'a reçu. Et puis, un désintérêt global pour la politique, voilà. Et c'est bien parce qu'il y a un désintérêt global pour la politique qu'il faut renouveler les méthodes, les hommes et les femmes, mais les idées. Et c'est ce que j'ai voulu faire à l'occasion de cette élection régionale, en ne me confortant pas dans mon siège de la majorité sortante et en tentant une nouvelle aventure avec Laurent Bonnater.
Avant d'aborder les différentes idées de votre programme avec Monsieur Laurent Bonnater, je voulais revenir un petit point avec vous sur le troisième tome de Vernon mérite toujours mieux que vous avez sorti récemment avec Sébastien Lecornu. Alors ce tome, pourquoi ce troisième tome?
Parce que on a toujours des idées à projeter pour la ville de Vernon. Quand nous avons eu envie d'être à la mairie dans les années 2010-2011, on savait pertinemment et précisément ce qu'on voulait faire de cette ville. Et on considérait qu'elle n'avait pas ce qu'elle méritait, d'où le titre du livre « Vernon mérite mieux ». Puis ensuite, Vernon mérite encore mieux, ou toujours mieux. Et puis le troisième tome. On veut formaliser par écrit toutes nos idées, écrire ce qu'on veut faire, et être jugé sur ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, en politique sérieux, crédible, on veut tout coucher sur le papier pour que les électeurs, les Vernonnais, jugent sur pièce. Et on peut considérer que depuis le mois de mars 2020, la situation a quand même globalement évolué. Tout le monde, tout à chacun doit se remettre en question, les collectivités, les hommes et les femmes politiques, la société civile, le tissu associatif. Et c'est ce que l'on a fait avec ce troisième tome. C'est une mise à jour du deuxième en version « Que se passe-t-il après la crise ? Qu'est-ce qui va changer concrètement ?» Et c'est aussi dans ce tome qu'on a formalisé que la concrétisation de nos projets municipaux ne pourrait avoir lieu définitivement que si de nouveau le département restait dans la majorité actuelle et si la région travaillait mieux, encore mieux, et j'y veillerai avec Laurent Bonnater, avec la ville de Vernon. Parce qu'on a eu des choses de la région, mais on n'a pas tout eu. On en reparlera tout à l'heure, les trains, ça ne va pas mieux. Le campus de l'espace mérite encore mieux de la part de la région. Le lycée mérite encore mieux, le lycée du Mézil, qui est un des plus grands lycées de Normandie. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on a formalisé dans ce troisième tome. Puis voilà, puis montrer aux Vernonnais que nous ne sommes pas des paresseux, nous ne sommes pas des fainéants. Et donc on leur écrit, on leur couche sur le papier comment on voit notre ville dans les 5 à 10 ans qui viennent.
Alors justement, vous avez un peu parlé du thème du transport. On va commencer avec une question. Les principales villes normandes, est-ce qu'elles sont bien reliées entre elles? Et sinon, comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème?
Non, on le voit bien. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits par la majorité sortante que je ne renie pas, qu'il fallait faire. Mais il y a encore des sujets autour de la métropole rouennaise. Et manifestement, les 4 listes en lice pour le second tour ne partagent pas toutes le même avis. En tout cas, il y en a bien une qui est contre le contournement Est de Rouen. C'est la liste de Madame Boulanger. Pour le coup, nous partageons le même avis avec Hervé Morin, nous sommes pour. Puis il y a d'autres sujets dans d'autres grandes villes normandes. Il y a aussi des sujets de coordination entre certaines villes normandes et de déviations qu'il faut finir. C'est ce qu'a dit aussi Laurent Bonnater un certain nombre de fois quand il a été interrogé. Et puis il y a un vrai sujet, il y a un décalage entre l'urbain, le rural et le périurbain. Il y a la mobilité ferroviaire qui, manifestement, après l'achat d'un certain nombre de rames de train qui a coûté plus d'un milliard aux contribuables normands, le compte n'y est toujours pas. Chaque jour, sur mon Twitter, je suis incendié par les usagers navetteurs du train. Donc là, il y a quand même encore des sujets qui doivent être aboutis une bonne fois pour toutes. Et j'aimerais que le président sortant arrête l'autosatisfaction sur le sujet et qu'il reconnaisse que même après l'achat de train, tout ne va pas, même s'il fallait acheter des trains. Ensuite, il faut penser aux mobilités de demain, les mobilités décarbonées. On en a parlé un certain nombre de fois, notamment lors des débats. Je pense que ce sera encore le cas ce soir, il y a un débat sur France 3. Et puis il faut aussi faire en sorte que les milieux ruraux, la ruralité ne soit pas abandonnée et qu'on arrive à connecter la ruralité à l'urbain. Ce qu'on a appelé la logique du dernier kilomètre. Quand vous êtes arrivé dans une gare, comme la gare de Vernon par exemple, ou même la gare d'Évreux, comment vous faites pour aller après jusque dans votre village ? Aujourd'hui, c'est pas clair et c'est pas fluide pour la plupart des Normands. Donc, il faut à chaque fois un mode de transport adapté au temps à l'époque, et notamment aux mobilités douces, aux cars décarbonés, à l'hydrogène, au gaz. Voilà, y a plein d'autres solutions. Il y a aussi les navettes autonomes. À Vernon, on travaille sur une navette autonome entre la gare de Vernon-Giverny et le village des impressionnistes. Il y a plein de sujets qu'il faut porter sur la mobilité, la nouvelle mobilité. Mais, contrairement à la gauche sectaire que l'on a en face de nous, il ne faut pas condamner les gens qui prennent la voiture. Il y a énormément de Normands, et c'est la majorité d'ailleurs, qui prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler. Et eux, ils n'ont pas envie qu'on leur fasse la leçon tous les jours sur comment ils doivent se déplacer.
Alors passons à un autre sujet, celui de l'enseignement. On l'a vu, les étudiants ont été très frappés par cette crise sanitaire. Alors comment est-ce que vous comptez lutter contre cette précarité que les étudiants peuvent connaître encore aujourd'hui ?
Alors nous, on est une liste assez jeune, dans tous les sens du terme. On est une liste assez jeune en termes d'âge, on est une liste assez jeune dans notre manière de faire de la politique. Donc bien évidemment, notre première priorité, ça a été dit dès le départ, c'est justement les jeunes. Et les jeunes ne sont pas suffisamment, voire pas beaucoup, allés voter. Donc on compte bien sur eux pour aller voter dimanche, parce qu'on pense que nous sommes la liste qui leur parlons le plus, avec une proposition phare qui est la garantie jeune à venir. Ils ont souffert, notamment pendant la crise du Covid, mais être jeune en Normandie, c'est pas simple non plus. Beaucoup de jeunes quittent la Normandie après leurs études, voire même parfois avant. Il faut absolument qu'ils restent en Normandie, il faut absolument qu'ils s'installent en Normandie, il faut absolument qu'ils travaillent en Normandie, il faut absolument qu'ils fondent une famille en Normandie. Pour cela, on a prévu cette fameuse garantie jeune à venir de 3000 euros. Et c'est pas un chèque en blanc, hein, contrairement aussi aux méthodes des socialistes. C'est une méthode de gagnant-gagnant, comme on l'a imaginé à travers les chantiers jeunes à Vernon, où on vous donne quelque chose, alors en l'espèce ça peut être de l'argent, mais contre rétribution et contre un engagement au service de l'intérêt général pour la Normandie. Ça peut être une aide pour le premier logement, ça peut être une aide pour une formation professionnelle, ça peut être une aide pour le permis de conduire, ça peut être une aide pour son premier véhicule. Puisqu'une fois de plus, quand on veut du travail et quand on veut être inséré dans la société, il faut pouvoir bouger, il faut pouvoir être mobile.
Passons assez rapidement sur le sujet de la santé. Comment est-ce que vous allez réussir à favoriser l'installation des médecins généralistes accessibles à moins de 20 minutes de tous les Normands ?
Bah, une fois de plus, c'est aussi notre méthode moderne, nouvelle, c'est que nous, on veut faire des additions, pas des divisions, pas des soustractions. Pendant cette crise du Covid, il y a ceux qui ont passé leur temps à critiquer la manière dont fallait gérer la crise, alors qu'ils n'en ont jamais eu à gérer des similaires pendant tout leur mandat, pendant toute leur carrière politique. Donc encore une fois, c'est très facile de critiquer, mais j'aurais bien aimé les voir à la place du président de la République ou même d'un seul des ministres. Nous, de manière pragmatique, et c'est ce que j'ai fait à Vernon, j'ai travaillé avec tout le monde. J'ai travaillé avec l'hôpital, dont je suis le président du conseil de surveillance, l'hôpital d'Évreux-Vernon. J'ai travaillé avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui a beaucoup été critiquée dans un certain nombre de régions, mais force est de constater qu'en Normandie, elle marche plutôt bien. J'ai travaillé avec le département de l'Eure, j'ai travaillé avec la SNA, dont je suis président délégué. Et aussi, évidemment, avec ma propre commune et les agents de la commune. Et c'est ainsi qu'on a créé un centre de vaccination qui aujourd'hui est le centre qui vaccine le plus dans le département de l'Eure. Devant Évreux. On est prêt à 20 000 doses aujourd'hui sur César-Lemaître, donc l'ancien collège César-Lemaître. Voilà, quand on additionne les talents, les idées et les méthodes, on fait des belles choses. Et ben, j'aimerais bien que sur le sujet de la médecine générale, la médecine libérale, on additionne aussi les compétences et que chacun ne fasse pas les choses dans son coin. Que la région ne décide pas de tout, toute seule, en disant « je vais mettre une maison de santé ici, je vais financer une là ». Non, non. On se met autour de la table avec les agglomérations, avec les maires des villes importantes ou même des représentants des villes et des villages, notamment à travers les communautés de communes. Et on essaie de trouver quel est le meilleur schéma, la meilleure organisation de santé sur un territoire qui est effectivement compliqué, celui de l'Eure, qui est quand même essentiellement rural. Et dans le rural, il manque beaucoup de médecins, mais dans une ville comme Vernon, beaucoup de médecins seront à la retraite dans quelques années. Il y en a déjà un certain nombre qui sont partis. Il faut trouver des solutions. Et donc, après avoir fait le tour de la question avec un certain nombre de mes collègues depuis quelques années, on estime que le salariat des médecins reste la solution la plus viable. Et c'est ce qu'on va commencer à faire avec le centre de santé qu'on a ouvert récemment au Valmeux et qui est aussi le premier centre de santé à faire des vaccinations dans les quartiers prioritaires de la ville.
Alors, en quelques mots, très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, sur le thème de la sécurité, vous souhaitez créer un bouclier de sécurité pour soutenir et moderniser les forces de police municipale et déployer la vidéoprotection. Alors, pourquoi est-ce que c'est indispensable, selon vous ?
Alors déjà, en premier lieu, ce sujet-là est extrêmement sérieux. C'est un sujet que nous avons pris en main dès le départ de notre annonce de candidature, c'est-à-dire il y a pratiquement 3 ou 4 mois. Et je constate que toutes les listes, à part les listes de gauche sectaire évidemment, nous ont suivis sur ce sujet. Donc je me félicite que Hervé Morin, le Front National, s'intéresse aussi à la sécurité en Normandie, puisque manifestement, en tout cas pour la majorité sortante à laquelle j'ai participé, et ça j'en peux en témoigner, la sécurité n'a pas vraiment intéressé ces dernières années. Et c'est pas parce que ce n'est pas une compétence de la région qu'il ne faut pas s'en occuper. Tout le monde, encore une fois, doit mettre ses compétences sur la table et de l'argent sur la table pour aider les villes et les villages à s'armer en vidéoprotection, à former et à recruter des policiers municipaux, à mutualiser les forces de sécurité, à aider à l'achat de matériel, caméras piétons, gilets, armements, rénover un certain nombre de bâtiments ou en construire. Bref, on veut mettre 8 millions d'euros par an en Normandie, dans les villes et les villages, pour venir combler, on va dire, le tour de table financier pour aider les villes et les villages à améliorer la sécurité, la tranquillité et tous les sujets d'incivilité. On le voit bien d'ailleurs, c'est pas forcément dans les villes comme Vernon où il y a le plus de sujets. En ruralité, les maires sont démunis, ils sont tout seuls avec leurs secrétaires de mairie ou leurs élus. Il faut aussi les aider à venir mailler le territoire avec des caméras, à faire des opérations mutualisées avec les forces de police nationale ou les gendarmeries. Il y a plein de choses à faire sur la sécurité. Je me félicite une fois de plus qu'on soit suivi sur ce sujet-là. Mais rendons à César ce qui appartient à César, en toute modestie. Nous étions les premiers à le proposer. Et j'espère que quoi qu'il arrive dimanche, ce sera suivi des faits lors de la nouvelle mandature de la région.
François Ozio, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Laetitia Sanchez, tête de liste du département de l'Eure, sur la liste La Normandie nous rassemble, menée par Mélanie Boulanger sur BPM.
BPM, élection régionale 2021.
Bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Le second tour des élections régionales aura lieu ce dimanche 27 juin. À cette occasion, BPM vous propose aujourd'hui une émission spéciale où nous recevons les 4 candidats au second tour de ces élections régionales de Normandie. Et nous poursuivons cette émission avec Laetitia Sanchez, candidate en tête de liste du département de l'Eure sur la liste La Normandie nous rassemble, menée par Mélanie Boulanger. Une liste soutenue entre autres par le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, les Radicaux de Gauche et Génération Écologie. Laetitia Sanchez, bonjour.
Bonjour.
Lors du premier tour des élections régionales de Normandie, votre liste avec Mélanie Boulanger est arrivée en troisième position avec 18,37% des voix. Vous, Laetitia Sanchez, vous avez 48 ans, vous êtes maire de Saint-Pierre-du-Vauvray depuis 2020 et vous souhaitez une région écologique, sociale et solidaire.
Oui, tout à fait. Nous voyons au lendemain de ce premier tour que les Français ne se sont pas tellement mobilisés pour ces élections régionales. Nous le regrettons. Voilà, les gens ont été éprouvés par les crises. Il y a un peu une sorte de perte d'espoir dans la politique. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut réagir. Les régions, les départements ont des compétences très importantes pour la vie quotidienne. On voit aujourd'hui le rapport du GIEC qui nous alarme. Si les régions n'agissent pas maintenant pour le climat, les lendemains pour les enfants nés en 2021 sont très difficiles et on voit déjà les épisodes climatiques extrêmes se multiplier, on voit les sécheresses se multiplier l'été, des champs dans l'Eure brûlés sous l'effet des canicules et des sécheresses. Il faut agir maintenant et il faut vraiment reprendre l'espoir que la politique peut faire quelque chose pour changer le quotidien des habitants.
Alors durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets des compétences de la région. Mais tout d'abord, on va revenir sur les résultats du premier tour. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats ?
Comme je le disais, on sort d'une grave crise et les élections n'ont pas beaucoup mobilisé, notamment les jeunes. C'est vraiment très, très dommage et très triste de ne pas s'emparer de ce moment démocratique où chacun a une voix, chaque voix compte et on peut peser sur les options qui seront prises demain. Veut-on une autoroute qui défigure notre département ou pas? Ce sont des options à prendre. Veut-on développer le ferroviaire? Veut-on développer le fret fluvial pour les marchandises? Tout cela, ce sont des options que l'on prend par un bulletin de vote. Quelle économie voulons-nous demain? Quelle carte des formations? Quel lycée pour nos enfants? Quelle alimentation? Tous ces sujets sont très quotidiens et notre vote peut vraiment influer sur le lendemain de nos régions.
Vous l'avez dit, très fort taux d'abstention ce week-end. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'abstention selon vous et surtout comment est-ce qu'on peut y remédier?
On a vu effectivement des gens beaucoup se déplacer, partir en week-end, on le comprend bien après cette chape de plomb qui est tombée sur la France et sur le monde depuis un an. Il y a une envie de prendre l'air, de respirer, mais la respiration démocratique c'est important aussi et on donne une prime peut-être aux sortants parce que c'est la valeur refuge, un certain conservatisme pour que ça ne change pas, parce qu'on a vécu de telles péripéties que l'on a peut-être envie de se réfugier dans un non-changement. Or, aujourd'hui, tous les signaux montrent qu'au contraire, il faut agir pour créer de nouvelles politiques publiques et prendre quelques minutes pour aller voter entre 8h et 18h. C'est vraiment participer à la vie publique et donner son avis. C'est très important aujourd'hui.
Alors revenons maintenant sur les grandes idées de votre programme avec Mélanie Boulanger. On passe à l'enseignement et notamment au lycée pour des conditions d'études de qualité dans ces établissements. Vous souhaitez investir massivement dans la rénovation et les équipements. Ce serait quoi pour vous le lycée de demain ?
Oui, bien sûr, la région doit être exemplaire dans les bâtiments dont elle a la charge par un programme de rénovation thermique massif. Ça doit concerner les habitants, mais aussi des bâtiments dont la collectivité a la charge. Le lycée de demain, c'est un lycée apaisé, un lycée où l'on soutient les projets des équipes en place pour permettre l'accès à la culture, l'ouverture. Ce sont des lycées où l'on accède à vélo tranquillement. Ce sont des lycées où l'alimentation est de qualité locale et en tendant vers du 100% bio, des alternatives végétariennes proposées aux lycéens de plus en plus conscientisés sur ces sujets-là. Voyez, le lycée de demain, c'est un lycée du 21e siècle qui prennent en compte les enjeux climatiques, qui prennent en compte la qualité de vie pour nos jeunes qui aujourd'hui ont été éprouvés et s'inquiètent pour l'avenir. Soyons une collectivité exemplaire.
Vous en avez parlé un petit peu du coup de la restauration dans les cantines. Votre objectif, c'est vraiment apporter un circuit court du coup au sein des lycées?
Oui, on peut être vraiment très volontaire par la commande publique et pour développer le bio, on sait que l'offre et la demande fonctionnent vraiment efficacement. Donc la commande publique, encore une fois, est un levier pour aider au développement du bio qui non seulement permet aux agriculteurs de meilleurs revenus aujourd'hui quand c'est soutenu par la région, et là-dessus nous avons des aides à apporter, notamment avec le deuxième pilier de la PAC. Enfin, il y a des choses à faire dans la région aussi. C'est également protéger notre ressources en eau. Il va y avoir de fortes tensions sur la ressource en eau à l'avenir. Le bio permet de préserver la qualité de l'eau, la qualité de l'air aussi. Les intrants sont très polluants, ont un impact carbone important. Vous voyez, tout est lié finalement là. L'écologie, c'est une cohérence de tous nos actes du quotidien. Et quand on bouge un domino, tout le reste également devient plus vertueux autour.
On va aborder maintenant le thème des transports. Vous souhaitez la gratuité des transports pour les jeunes. Pourquoi cette tranche de population précisément ?
Parce que c'est à cet âge que l'on doit découvrir le monde, ça fait partie de la jeunesse, on doit pouvoir se déplacer pour se cultiver, pour s'ouvrir, pour aller rencontrer ses amis, de la famille, voyager. Et les choix de mobilité se font très jeunes. Si l'on n'offre que l'alternative d'acheter une troisième voiture dans la famille et puis d'aller payer ses péages, quelle aide finalement apporte-t-on pour la mobilité des jeunes? Aucune. Vraiment, le transport collectif gratuit, c'est prendre les habitudes d'habitude d'autres mobilités, et c'est permettre effectivement de s'ouvrir, d'aller étudier ailleurs, parce que par exemple, il faut retenir les étudiants en Normandie, mais en leur donnant la possibilité d'être mobile, de pouvoir aller faire des stages, de pouvoir se déplacer sans avoir le frein de ce budget transport qui aujourd'hui pèse lourdement dans le budget des étudiants. On l'a vu cette année avec la crise alimentaire qui les a frappés et une précarité grandissante chez les jeunes.
Mais vous ne craignez pas que cette mesure soit au détriment du budget transport de la région ?
Non, car ça ne doit pas du tout empêcher d'investir pour que les transports soient plus performants, parce que de meilleurs transports avec la réouverture de lignes indispensables pour le quotidien, je pense à la liaison Rouen-Évreux, ce sont des milliers de navetteurs aujourd'hui entre les deux préfectures, ce serait une offre rentable que de proposer cette solution de mobilité. Il faut investir et investir sans dans une ligne de train comme celle-là, c'est beaucoup moins cher qu'un milliard dans une autoroute avec un péage qui, là encore, n'offre pas la possibilité d'aller en centre-ville. Ce n'est pas une autoroute qui traverse nos territoires, qui apporte des solutions de mobilité. Le train est une solution moderne. Investir dans le train, c'est rentable. C'est vraiment un investissement du présent et du futur.
Et vous souhaitez également le renforcement de l'intermodalité. Par quels moyens est-ce que vous comptez faire ça ?
Alors l'intermodalité, c'est d'abord de régler le problème des correspondances. Enfin, j'ai circulé dans toute la région pendant des semaines, des mois, des années, et on me dit toujours qu'on est bloqué parce que si un transport arrive en retard, l'autre est parti. Il faut vraiment travailler sur l'amplitude horaire. Aujourd'hui, personne ne fait 8h, 17h, c'est 20% peut-être des déplacements. Il faut pouvoir partir le matin, revenir le midi, partir en milieu de journée, revenir sans avoir de trou de 3 ou 4 heures. Donc l'intermodalité, c'est la correspondance, c'est de pouvoir avoir des abris vélos sécurisés, des pistes cyclables qui rejoignent en sécurité les gares routières et ferroviaires, et de pouvoir aussi embarquer son vélo dans le train. On voit aujourd'hui se développer beaucoup le tourisme à vélo, ce qu'on appelle le vélo taf, où on met son vélo dans le train et puis ensuite on va travailler à vélo. Mais tout ça, il faut des infrastructures et il faut des rames de train où l'on puisse mettre les vélos, pas comme les nouvelles rames Bombardier qui n'ont que 3 places quand la norme européenne et de 8 places par rame.
Vous parliez du coup des correspondances, du coup on peut aborder le sujet de la ponctualité des transports qui est un véritable souci pour beaucoup de Normands. Comment est-ce que vous comptez faire pour l'améliorer ?
Là, c'est vraiment la négociation avec Île-de-France d'une part, et le doublement de ce qu'on appelle le Mantois. Vous savez, Paris-Mantes est engorgé. Aujourd'hui, on a là un goulet d'étranglement et ce débat sur la LNPN n'a que trop duré. Aujourd'hui, il faut renoncer au projet global de LNPN à 9 milliards qui n'a pas de sens, qui n'est pas un train du quotidien. Mais en revanche, il faut d'urgence engager ces travaux de doublement du Mantois pour désengorger les sillons en région parisienne et permettre plus de ponctualité pour la Normandie.
Passons sur le sujet de la santé. Vous prévoyez de lutter contre les déserts médicaux. Par quels moyens ? Parce qu'on sait que les compétences de la région en la matière sont limitées.
Oui, mais par les contrats de territoire, nous voulons encourager l'aide aux maisons de santé, contribuer à leur financement dans les contrats de territoire, et puis soutenir également l'aide administrative pour les médecins qui parfois souffrent cruellement de la paperasse, comme tout le monde, ont besoin de secrétariat, donc cette aide administrative peut être un soutien également aux médecins, et également le salariat des médecins. La région Centre-Val-de-Loire l'a mis en place et ça fonctionne quand on a un grave problème de déserts médicaux comme dans notre région.
Passons en matière de formation professionnelle. Comment est-ce que vous comptez désirer renforcer l'offre de formation au métier de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire ?
Mais c'est la région qui est maître de la carte des formations, c'est la région qui décide d'ouvrir ou de fermer des formations. Donc aujourd'hui, il faut vraiment faire cette transition vers les métiers de demain. Il faut renforcer les qualifications parce qu'on devra évoluer tout au long de la vie vers des nouveaux métiers. On voit l'émergence de toutes ces nouvelles technologies et on voit effectivement tous ces nouveaux métiers de la transition écologique auxquels aujourd'hui il faut proposer des formations. La région a un rôle à jouer, il faut garder de l'emploi dans notre région en proposant cette carte des formations pour se tourner vers ces métiers où aujourd'hui on a une pénurie de main-d'œuvre.
Et poursuivant avec le développement économique, vous souhaitez mettre en œuvre un pacte vert pour l'emploi. Comment est-ce qu'il fonctionnerait ce pacte vert ?
c'est systématiquement par la commande publique, par l'aide conditionnée de la région aux impacts sociaux et environnementaux que l'on peut vraiment accélérer la transition vers tous ces nouveaux métiers, ces métiers des circuits courts, cette production des denrées qui sont utiles localement. Nous avons par exemple à Pont-de-l'Arche une formidable usine de chaussures. Il faudrait vraiment pouvoir l'aider pour redévelopper le Made in Normandie. Et nous soutenons ces circuits courts et nous soutenons voilà tout le circuit aussi du bâtiment pour la rénovation thermique. Ce sont des milliers de métiers qui sont là en nécessité pour pouvoir permettre ce meilleur confort des Normands en rénovant les habitations. Ce sont tous les métiers voilà des transports collectifs, la réparation vélo, il y a un boom, on n'a pas assez de réparateurs vélo. Enfin, voyez, tout ça sont des métiers finalement voilà plein de bon sens. Aussi dans l'agriculture, on peut retrouver plus d'emplois avec plus d'agronomie, avec ces circuits courts qui sont plébiscités, plutôt que des productions que l'on ne fait qu'exporter avec des fermes de plus en plus grandes, mais de moins en moins humaines. Vous voyez, la transition écologique et solidaire, ça fait revivre aussi les territoires, ça fait revivre les villages. Ce sont ces commerces qui sont de proximité, plutôt que toujours cet étalement des grandes surfaces qui finalement détruisent plus d'emplois qu'elles n'en créent. C'est tout ça le pacte vert pour l'emploi.
Et du coup, vous vous opposez à l'installation de géants du e-commerce dans la région, notamment Amazon à Petit-Couronne près de Rouen. Vous nous l'avez un petit peu expliqué pourquoi, pour vous, cela supprime plus d'emplois que ça en crée ?
Et oui, c'est mathématique, ça vide les emplois de centre-ville et ça, voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on fait tout par internet, le télétravail est une des solutions peut-être pour le monde de demain et une des solutions pour travailler. Mais pourquoi cette consommation à outrance, cette déshumanisation, pourquoi ne pas favoriser des centres-villes où on peut avoir une expérience, comme on dit, de qualité, à la fois en flânant dans des commerces vivants, dans des centres-villes qui permettent voilà, de voir le patrimoine, les musées, la culture, et en même temps d'avoir une consommation raisonnable, de proximité, avec des contacts humains bien meilleurs que par un simple clic sur une plateforme de vente en ligne.
Alors en 30 secondes pour terminer avec les compétences partagées avec les autres collectivités et l'État, notamment le tourisme, le sport et la culture, est-ce que ce sont des domaines qui peuvent être liés avec tout ce que vous avez pu nous évoquer depuis le début, à savoir une politique écologique importante ?
Mais complètement, l'écologie, c'est la qualité de vie. L'écologie, c'est comment bien vivre dans nos territoires, comment bien habiter la planète. Et le tourisme, bien évidemment, c'est s'insérer dans son environnement et dans d'autres environnements de la façon la plus harmonieuse possible. On voit aujourd'hui cette aspiration au tourisme vert, on voit l'aspiration pour tout le sport de plein air, les sports d'eau, l'escalade. Aujourd'hui, il y a vraiment à miser sur ce développement du slow tourisme, le tourisme lent, où l'on prend son temps, le temps de la randonnée, le temps du vélo, le temps du sport nature. Et là-dessus, la Normandie, la verte Normandie, a vraiment des atouts à redévelopper, plus tout ce patrimoine magnifique, des falaises des Totas, Mont-Saint-Michel, aux plages du débarquement, tous ces acteurs des territoires qui font vivre aussi la mémoire de ces lieux. Vraiment, le tourisme, nous le soutenons. Plutôt que de prendre l'avion pour aller au bout du monde, redécouvrons, comme on l'a fait pendant toute cette période, le tourisme de proximité. Et là-dessus, la région a beaucoup à offrir.
Laetitia Sanchez, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, bonne journée.
On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Timothée Houssin, tête de liste du département de l'Eure sur la liste Faire gagner la Normandie, liste soutenue par le Rassemblement National et menée par Nicolas B sur BPM.
BPM, élection régionale 2021.
Et bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre, le second tour des élections régionales aura lieu ce dimanche 27 juin. Et à cette occasion, BPM vous propose aujourd'hui une émission spéciale où nous recevons les 4 candidats au second tour de ces élections régionales de Normandie. Nous avons déjà reçu François Ozio et Laetitia Sanchez et nous continuons cette émission avec Timothée Houssin, candidat à tête de liste du département de l'Eure sur la liste Faire gagner la Normandie, liste soutenue par le Rassemblement National et menée par Nicolas B. Alors Timothée Houssin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes arrivé en deuxième position lors du premier tour de ces élections régionales avec 19,86% des voix. Vous avez 32 ans, vous êtes assistant parlementaire auprès de la députée européenne française Annika Brunat. Vous êtes aussi secrétaire départemental en Eure du Rassemblement National et conseiller régional normand sortant. Donc durant cette émission, on va passer en revue votre projet pour la région, vos propositions et vos priorités pour les 6 années à venir. Mais d'abord, on va revenir sur les résultats du premier tour. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces résultats ?
Bah écoutez, tout d'abord, moi je pense que c'est un résultat qui est très difficile à interpréter et dont on ne peut pas réellement pour le moment tenir compte pour une raison très simple, c'est qu'il y a seulement un électeur sur trois qui s'est déplacé. Par conséquent, le résultat des urnes me semble pas forcément représentatif de l'état d'esprit et des volontés des Normands. On ne peut pas aujourd'hui s'en satisfaire. Il va falloir impérativement que les électeurs se mobilisent davantage pour aller aux urnes. Cependant, nous, on a peut-être un petit peu raté cette première manche. On a un résultat qui est en demi-teinte. On note quand même que les Normands nous ont placés comme première opposition à la politique menée par Hervé Morin et par ses alliés d'LREM, puisqu'il y a quand même 21 macronistes sur sa liste, ce qui est quand même satisfaisant pour nous d'être la première opposition, et on souhaite améliorer nettement notre score dimanche prochain.
On le voyait dans les différents sondages, vous étiez annoncé avec un meilleur pourcentage. Vous pensez que c'est l'abstention notamment qui vous a un peu freiné dans cette... dans le résultat ?
Oui, tout à fait, d'autant qu'on a souvent de bons résultats auprès des classes populaires, dont on peut observer qu'elles se sont relativement peu déplacées à l'occasion de ce scrutin. Je pense qu'il y a différentes raisons qui expliquent cela et qu'on peut souvent parfaitement comprendre. La première raison, c'est peut-être un petit peu le rôle du gouvernement. Le gouvernement, quand même, a déplacé ces élections. Il y a eu très peu de choses qui ont été faites, notamment dans les médias, en tout cas publics, officiels, pour expliquer aux gens le fait qu'il y avait deux scrutins le même jour, quel était l'intérêt de ce scrutin pour rappeler les dates de vote. Tout ça a été relativement mal fait. Il y a eu des véritables défaillances aussi, puisque, vous le savez, les électeurs reçoivent ce qu'on appelle les professions de foi avant un vote, c'est-à-dire un papier de chaque candidat leur expliquant leur programme. Et il se trouve que dans le département de l'Eure, il y a quasiment la moitié de ces documents qui n'ont pas été distribués, ce qui est un phénomène qu'on observe d'ailleurs à différents endroits en France et qui fait actuellement scandale. Donc les électeurs étaient très mal informés pour cette élection. Et puis, bah, il y a forcément un effet Covid, un certain nombre de personnes qui ont pu enfin bouger comme ils l'entendaient et qui ont eu d'autres priorités que celle d'aller voter. Et il y a peut-être aussi une exaspération d'un certain nombre de Français qu'on peut comprendre, l'impression que pour eux, la meilleure façon de s'opposer à la politique qui est menée par Emmanuel Macron, c'est de ne pas se rendre aux urnes. Or, je pense qu'ils sont dans l'erreur, malheureusement, en adoptant cette attitude, puisqu'ils laissent en fait gagner nos adversaires politiques. Moi, je pense que face à cette abstention, si on prend l'exemple de Sébastien Lecornu, maire de Vernon, ministre de Monsieur Macron, je pense qu'il se satisfait très bien de ces résultats qui, sur le canton de Vernon, l'ont laissé largement en tête, faute de participants chez ses adversaires. Je pense que Monsieur Morin, qui fait la part belle à macroniste sur sa liste, se satisfait également de ce résultat, parce que eux, leur électorat est allé davantage voter. Mais je pense surtout qu'il y a un véritable espoir, une véritable perspective. Il faut bien voir que Monsieur Morin arrive en tête avec 35% environ, mais c'est 35% du tiers des électeurs qui sont allés voter. Donc finalement, c'est jamais que 10 à 12% des inscrits. Donc il faut bien aussi que les électeurs comprennent que le week-end prochain, ils ont la possibilité de tout changer. Parce que finalement, il n'y a jamais que 10% des électeurs qui ont voté pour ces candidats. Il suffirait d'une mobilisation importante de nos électeurs pour qu'on puisse à la fois faire rentrer énormément d'élus à la région et puis pourquoi pas quand même la gagner.
Mais alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour y remédier à cette abstention ?
Bah notamment, comme on le fait là actuellement dans cette interview radio, essayer de sensibiliser les électeurs au fait que rien n'est perdu. Les personnes qui ont placé en tête nos adversaires sont finalement très peu nombreuses. Et puis, les sensibiliser au fait que la région, mais aussi le département, parce qu'il y a deux élections le même jour, gèrent énormément de choses dans leur vie quotidienne. Je pense qu'on va avoir la possibilité de développer ça dans quelques minutes. Et qu'il est important qu'ils se déplacent aux urnes. Et il est important aussi que ça soit au département et à la région, qu'au-delà d'une majorité qui peut être élue, il y a aussi une opposition, puisque cette opposition, elle accède à un certain nombre de dossiers, elle permet d'éviter un certain nombre de politiques néfastes, elle est aussi force de proposition au service des Normands, donc c'est très important que le Rassemblement National ait un maximum d'élus.
Justement, vous le disiez, évoquons maintenant vos propositions pour la région et on va débuter par le ferroviaire. Vous souhaitez engager un bras de fer avec la SNCF et l'État pour que la Normandie, je cite votre tract, ne soit plus la grande oubliée des investissements en matière de transport. Et dans le même temps, vous êtes opposé au projet de la ligne nouvelle Paris-Normandie, important investissement par excellence. Alors qu'attendez-vous de ce bras de fer ?
Oui, le train est extrêmement important dans la région, en particulier ici dans le secteur de Vernon, puisque énormément de gens font la navette au quotidien pour des raisons professionnelles, à la fois avec la région parisienne et puis la métropole rouennaise. Hervé Morin n'a pas réussi à faire investir massivement la SNCF sur la Normandie, qui a du coup un retard par rapport à d'autres régions. Il faut que l'État soit relativement juste et égal et qu'il investisse donc davantage dans notre région. Et puis, il a fait une très mauvaise opération, Monsieur Morin, c'est qu'il a choisi de se faire, entre guillemets, offrir par la SNCF des trains neufs, mais qui roulent sur un réseau qui est en lui en mauvais état. Donc on a beaucoup investi dans les trains, mais on n'a pas amélioré le réseau, donc on a des vrais problèmes de fiabilité. Et puis en échange de ces trains, Monsieur Morin s'est engagé à prendre à son compte le déficit des intercités de la SNCF, et ça va peser 46 millions d'euros par an sur les comptes de la région, donc c'est un très mauvais choix à long terme. Nous pensons qu'il faut maintenir les petites lignes, en réouvrir certaines, maintenir les gares et qu'il faut améliorer le réseau normand, notamment en termes de maintenance pour gagner en fiabilité. Nous pensons qu'il faut investir là-dedans et du coup l'une des pistes d'économie aussi, c'est effectivement une opposition au projet de ligne nouvelle Paris-Normandie qui de toute façon, grosso modo, ne s'arrêtera pas dans l'heure. Il s'agira surtout de permettre aux Parisiens d'aller facilement en Basse-Normandie et qui va quand même nous coûter la bagatelle de 13 milliards d'euros. Donc voilà une piste pour développer nos lignes en priorité.
Alors toujours sur la mobilité avec le projet de contournement est de Rouen, vous souhaitez en concevoir un nouveau, moins onéreux. Alors comment est-ce que
alors c'est pas tant justement un nouveau que revenir plutôt à ce qui était l'ancien projet. On a aujourd'hui un projet de contournement est de Rouen qui ne fait pas du tout l'unanimité. Le département de l'Eure s'y est opposé, la métropole rouennaise s'y est opposée, d'autres collectivités locales le soutiennent. Nous soutenons le principe d'un contournement est de Rouen parce que la métropole rouennaise en a besoin, mais le projet en l'état actuel il fait 42 km, il occupe, il prend 8 viaducs, donc il va être extrêmement onéreux et il va y avoir du coup un péage qui va être beaucoup trop coûteux. La conséquence, c'est que les gens vont l'éviter, ça va être relativement peu utilisé en dehors des heures de pointe. Donc nous souhaitons revenir au projet initial qui consiste grosso modo à contourner la métropole rouennaise du rond-point des Vaches au tunnel de la Grand-Mare.
Passons maintenant à l'emploi et au développement économique que vous souhaitez soutenir. Alors, quelles sont vos propositions pour y parvenir ?
Déjà, se dégager des pistes d'économie. On a remarqué, sous la présidence d'Hervé Morin, que la fusion de la région, de la Haute et de la Basse Normandie, n'a pas du tout donné lieu à des économies d'échelle. Au contraire, il y a eu un dérapage dans les mauvaises dépenses et les dépenses de fonctionnement. Donc, il y a un certain nombre de pistes d'économies à faire. Il y a un certain nombre de subventions aussi qui sont à supprimer pour faire des économies. Et puis, on va pouvoir réinjecter cet argent dans l'activité économique, avec une priorité qui va être les PME, les TPE, les artisans, les commerçants, l'échelle vraiment locale et les petites entreprises, pour une raison très simple, c'est qu'il y a actuellement un plan de relance en France qui, à 97%, va bénéficier aux grands groupes. Or, on a un certain nombre, suite à cette crise, de petites entreprises qui, lorsque les aides publiques liées à la crise vont s'arrêter, vont être en grande difficulté. Donc, il faut vraiment leur donner leur priorité, non seulement pour maintenir nos emplois et nos savoir-faire dans la région, mais aussi pour en créer de nouveaux et pouvoir attirer des populations venant d'autres régions en Normandie et offrir de l'emploi aux jeunes Normands.
Vous souhaitez aussi mettre en place un véritable patriotisme économique régional, c'est ça ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, tout à fait. On souhaite prioriser les circuits courts. On pense aussi que la Normandie a une véritable image de marque, notamment en matière agroalimentaire, à défendre. La Normandie est une région qui, par son nom et son histoire, est connue à l'international, qui a aussi une image de qualité, notamment au niveau national. Et on pense qu'on peut vraiment lancer une marque Normandie identifiée qui permette de valoriser nos produits.
D'où le soutien à la création d'un label Normandie aussi.
D'où le soutien à la création, à l'amélioration, parce qu'il existe déjà, mais il est fort méconnu, d'un label produit de Normandie, effectivement, qui soit clairement affiché sur les différents produits.
Alors passons sur la sécurité, qui est une préoccupation de chacun de nos concitoyens. Et ceux qui porteront leur vote sur votre candidature attendent de vous des mesures fortes. Quelles seront-elles ?
Déjà, nous, on va prendre des mesures. C'est ce qui nous différencie d'Hervé Morin. Sous la précédente mandature, Hervé Morin et son équipe ont dépensé 0 euro pour la sécurité. Il n'y a aucune politique en matière de sécurité actuellement au niveau régional. Nous pensons que la région a un rôle à jouer, notamment parce que la délinquance a tendance à augmenter dans les zones rurales et périurbaines, mais aussi dans nos bourgs. Donc, il faut pouvoir agir. Et nous, on souhaite aider notamment notamment les municipalités ou les unions de communes qui souhaitent investir dans des polices municipales ou dans des polices intercommunales, en partant d'un principe simple. S'ils investissent 1 euro dans ces besoins en sécurité, eh bien, la région leur apportera 1 euro supplémentaire pour les aider dans leurs investissements.
Vous souhaitez instaurer la gratuité des transports régionaux pour les
policiers? Pour les policiers, oui, tout à fait. Ils ont une profession qui n'est pas toujours facile. Ça fait partie des avantages en nature qu'on peut leur offrir, effectivement.
Et installer des systèmes de vidéoprotection aux abords des lycées, il n'y en a pas assez aujourd'hui?
Oui, alors les lycées, c'est justement une compétence régionale. C'est la région qui gère les lycées. Effectivement, de la même façon qu'on vient d'en parler, la région pourra participer au financement d'équipements de vidéosurveillance, y compris dans les centres-villes ou dans des quartiers sensibles. Mais aux abords des lycées, c'est aussi une possibilité, puisque les lycées sont gérés par la région et qu'il peut y avoir un certain nombre de problématiques, notamment de violence aux abords des lycées.
Justement, en parlant des lycées en matière d'enseignement, qu'est-ce que vous comptez faire pour les lycées dans la région?
Alors nous déjà, on souhaite qu'il y ait peut-être davantage de lycées et éviter des lycées avec trop d'élèves. On souhaite éviter ce modèle où il y a 1000, 1200 élèves parfois dans un lycée, où les temps de transport pour les élèves sont parfois très importants en ruralité, et avoir un meilleur maillage de lycées pour permettre des établissements plus petits et plus proches.
Alors passons maintenant à la politique culturelle que vous souhaitez mener, avec notamment une grande refonte de celle-ci. En faisant cela, quel objectif vous souhaitez atteindre?
Alors premier objectif, on va pouvoir faire un certain nombre d'économies, puisque la région, vous le savez, a été gérée par les socialistes pendant de très nombreuses années. Ils avaient, je dirais, une clientèle culturelle qui consistait à subventionner un certain nombre d'associations qui parfois mènent des politiques culturelles qui ne semblent pas forcément intéressantes. Donc il faut bien sûr donner de l'argent à certains événements culturels. Mais il faut savoir, par exemple, on a subventionné le rappeur islamiste Medine. Bon, bah voilà, c'est quelque chose auquel nous souhaitons nous opposer. Et puis, il faut développer l'offre culturelle en Normandie pour les habitants, mais aussi pour attirer du tourisme. Nous, on a pour objectif, aujourd'hui, la Normandie réussit bien en tourisme, mais pour des séjours assez courts, c'est-à-dire que les gens viennent y passer le week-end. Donc nous, on souhaite développer l'offre pour que les gens viennent passer plutôt une semaine ou des vacances entières en Normandie. Et on a notamment un projet de grand parc à thème, un peu sur le modèle du Puy du Fou, dans lequel en fait on mettrait en avant l'histoire et la culture normande, puisque de Jeanne d'Arc au département, en passant par l'histoire de Roland, enfin voilà, on a beaucoup de choses à mettre en avant, et ça peut permettre d'attirer du public et de créer de l'emploi aussi pour les Normands.
Vous souhaitez également classer au patrimoine de l'UNESCO les plages du débarquement, c'est ça?
Tout à fait, elles ont une importance historique forte, et puis le fait qu'elles soient classées au patrimoine mondial de l'UNESCO peut nous permettre de nous faire bénéficier de politiques et d'argent à l'international pour les valoriser et pour aussi attirer des touristes.
Alors en quelques mots, comment est-ce que vous comptez gérer le budget au niveau de la région?
Nous, on pense faire un certain nombre d'économies, notamment d'échelle. On a remarqué que la fusion des deux anciennes régions n'a pas donné lieu aux économies espérées. Monsieur Morin prévoyait 50 millions d'économies chaque année sur les dépenses de fonctionnement. Ça a en réalité dérapé de plus 300 millions, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a l'endettement qui, au terme du prochain mandat, si on continue dans ces perspectives, dépassera le milliard d'euros. Donc, il va falloir gérer de façon plus sérieuse, peut-être supprimer certaines politiques qui ne sont pas utiles, et puis rediriger l'argent sur le tissu économique et sur les politiques dont on vient de parler durant toute cette émission, notamment sur les politiques de sécurité.
Et alors, dernière question qui va intéresser les Normands. Au niveau des impôts, comment est-ce que ça va se passer pour vous si vous êtes élu?
Alors nous, on souhaite éviter bien sûr toute hausse d'impôts, et puis après avoir contrôlé le dérapage, je dirais, en termes de dépenses qui a eu lieu lors des dernières années, on pourra effectivement espérer faire baisser la pression fiscale pour les Normands, pour leur donner davantage de pouvoir d'achat.
Eh bien Timothée Houssin, merci d'avoir accepté notre invitation. On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec François-Xavier Priolo, candidat sur la liste Vivre la Normandie menée par Hervé Morin sur BPM.
BPM, élection régionale 2021.
Et bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Le second tour des élections régionales aura lieu ce dimanche 27 juin. Et à cette occasion, BPM vous propose aujourd'hui une émission spéciale où nous recevons les 4 candidats au second tour de ces élections régionales de Normandie. Et nous terminons cette émission avec François-Xavier Priolo, candidat sur la liste Vivre la Normandie, menée par Hervé Morin. Alors, François-Xavier Priolo, bonjour.
Bonjour.
François-Xavier Priolo, vous avez 45 ans, vous êtes le maire de Louviers depuis 2014, président délégué de l'agglomération Seineur, vous êtes également vice-président sortant de la région Normandie et membre du comité des régions de l'Union européenne. Votre liste menée par Hervé Morin est sortie en tête lors de ce premier tour des élections régionales avec 36,86% des voix. Durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets des compétences de la région. Mais tout d'abord, que pensez-vous des résultats de ce premier tour ?
Je crois que nous avons remporté la première manche, mais pour gagner le match, c'est le second tour de dimanche prochain. Mais ce score qui nous place en tête au soir du premier tour, c'est la reconnaissance du travail qui a été accompli depuis 2016 avec la réunification de la Normandie, qui était un formidable challenge. On a réconcilié l'histoire et la géographie, et la Normandie est une région qui, ces cinq dernières années, eh bien, est revenue sur le devant de la scène, et les indicateurs qui étaient au rouge sont pour la plupart repassés au vert, notamment en matière de développement économique, d'emploi, et sur un certain nombre de sujets sur lesquels chacun s'est vraiment investi avec une seule idée, de promouvoir la Normandie au-delà des sensibilités des uns et des autres. Vraiment, c'était l'ambition de faire vivre cette Normandie.
Mais alors, lors de ce premier tour, on a vu un fort taux d'abstention, que ce soit régionalement, aussi nationalement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce très fort taux d'abstention ?
C'est jamais une bonne nouvelle pour la démocratie. D'abord, je rappelle qu'il y a quand même des gens qui sont morts pour qu'on ait le droit de voter. Donc, il faut s'interroger. Alors, il y a à la fois des raisons conjoncturelles et des raisons structurelles. On sort de 15 mois de pandémie et bien évidemment, ça laisse des traces, et ça laisse des traces aussi sur la participation électorale. Mais le fait d'avoir deux scrutins le même jour, je pense que c'est pas forcément facile à comprendre, de comprendre les enjeux, de ce à quoi sert un département, à quoi sert une région. Et le fait d'avoir deux élections en même temps peut-être est un élément de complexité supplémentaire. Et puis, je crois aussi, et la crise sanitaire nous l'a montré, c'est qu'il faut vraiment avancer sur des nouvelles modalités dans l'avenir pour le vote. On fait beaucoup de choses de façon électronique, par Internet. Il n'y a pas de raison que le vote soit la dernière roue du carrosse sur l'utilisation des technologies modernes. Quand on voit qu'il y a énormément de jeunes, plus de 80% qui ne se sont pas déplacés pour aller voter, on se dit aussi que c'est probablement dû à la méthode, à la façon dont on vote aujourd'hui, et que je crois que la France doit rattraper le retard qu'elle a dans ce domaine.
Alors vous disiez une idée déjà pour remédier à ce fort taux d'abstention, mais déjà une idée pour comment est-ce qu'on peut remédier d'ici à ce dimanche ?
D'ici à ce dimanche, je crois qu'il y a eu un fort écho médiatique de ce taux d'abstention. Donc ça va aussi peut-être réveiller certains électeurs qui ne s'étaient pas déplacés, qui, au vu de tout ce dont on parle depuis dimanche soir, vont se dire il y a peut-être une raison d'aller voter. C'est le fait d'en parler. Vous savez, c'est compliqué aussi de faire une campagne électorale en cette sortie de crise. C'était une campagne très atypique parce que sur la fin de la campagne, on peut plus facilement revoir des gens, mais sur le début de la campagne, ça se faisait un petit peu à distance, en visioconférence, et donc c'est assez logique qu'il y ait eu peu de participation. Donc j'espère qu'il y aura ce sursaut et que les électeurs vont se rendre compte de l'importance de ces élections. C'est important parce que ça agit directement sur la vie quotidienne, ça agit sur les transports, ça agit sur la santé, ça agit sur le social, ça agit sur le développement économique, ça agit sur les grands enjeux de transition écologique, numérique, sur les lycées, sur l'éducation, sur l'orientation. C'est vraiment les sujets de la vie quotidienne, c'est pas des élections hors sol.
Alors justement, abordons maintenant votre programme dans lequel vous avez défini six principales priorités pour, selon vous, accélérer la transformation de notre territoire. On va commencer par les transports. Quels sont vos projets en termes d'amélioration des grandes infrastructures routières existantes ?
Sur les infrastructures routières, l'objectif, c'est à la fois de permettre d'irriguer l'ensemble du territoire normand, de désenclaver des territoires qui peuvent encore l'être. Il y a des sujets qui se posent notamment dans l'Orne, avec la volonté aussi de la région de définir de nouvelles règles du jeu, peut-être avec l'État, comme on l'a fait d'ailleurs sur les transports ferroviaires avec les trains. L'objectif, c'est à la fois d'avoir des grandes infrastructures routières structurantes, et puis aussi de mailler le territoire, mais c'est surtout d'avoir une complémentarité entre tous les modes de transport. Il ne faut pas faire le choix de tout route ou le tout ferroviaire ou le tout vélo. Il faut qu'on réussisse à avoir cette intermodalité, puis surtout de pouvoir apporter des réponses à des personnes qui sont dans des situations différentes. Selon que vous habitez en zone urbaine, dans une métropole, en milieu rural, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc il faut qu'on soit en capacité d'apporter des réponses à ces besoins, à ces pratiques différentes, et en étant toujours dans une volonté d'exemplarité et de tenir compte des exigences de ce développement durable qui fait que quand on développe les infrastructures routières, en même temps, eh bien, on aide aussi aux moteurs propres. On essaye de développer les filières à hydrogène. Par exemple, la région va mettre en service dans les tout prochains mois le premier bus à hydrogène. Et on veut développer ces filières d'avenir. Et donc, l'objectif sur les infrastructures, c'est justement de développer ce maillage du territoire pour permettre à chacun de pouvoir bénéficier de ces infrastructures et de le faire de façon responsable en tenant compte des exigences des temps modernes.
Et en matière de ferroviaire, alors au-delà de vouloir moderniser les petites lignes, vous souhaitez en réouvrir d'autres. Plusieurs questions. Pourquoi, lesquelles et aussi quels moyens allez-vous y consacrer ?
Alors, vous savez que la question du ferroviaire, c'est une question extrêmement importante parce que la Normandie a été pendant longtemps un peu le parent pauvre, et il est d'usage de dire que la SNCF avait une dette à l'égard de la Normandie. Hervé Morin et notre équipe, on a pris les choses à bras-le-corps, on a repris la compétence de certaines lignes parce qu'on estimait qu'elles n'étaient pas forcément bien gérées, que les investissements n'étaient pas faits, et donc c'est un véritable plan Marshall pour le train. Et il y a à la fois l'achat de matériel neuf pour être dans des trains décents, avec du Wi-Fi, avec des espaces dignes des trains du 21e siècle, et puis en même temps, en effet, il y a ces lignes, ces petites lignes du quotidien qui permettent justement de garantir ces complémentarités. Parmi les lignes qu'on veut réouvrir, il y a par exemple la ligne Rouen-Louviers. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les navetteurs qui prennent la voiture parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de ligne directe et selon l'heure à laquelle vous faites ces trajets, les temps de parcours sont imprévisibles, il n'y a pas de cadencement. Et donc ça permet justement d'irriguer toutes les métropoles avec les zones qui peuvent aujourd'hui être desservies par des lignes ferroviaires. Et puis en l'espèce, si vous voulez, il y avait déjà une ligne existante, donc il faut la moderniser, la permettre sa réouverture, et c'est des investissements que la région va porter lors de la prochaine mandature. Une partie des études déjà a été réalisée, et donc c'est quelque chose de concret sur une échéance qui n'est pas forcément une échéance de long terme. Donc là aussi, il faut agir sur la complémentarité des différents modes de transport, et à la fois la question du train qui relie Paris à la Normandie avec ses grandes lignes, et puis la question des petites lignes un petit peu partout sur l'ensemble du territoire.
Abordons maintenant le volet environnemental de votre programme. Quel constat est-ce que vous pouvez faire de l'état de la biodiversité dans la région et quelles propositions faites-vous pour l'améliorer ?
Vous savez que nous avons pris une initiative importante en Normandie, c'est que nous avons créé un GIEC normand, c'est-à-dire que nous avons rassemblé les meilleurs experts de Normandie, des universitaires, des scientifiques, pour anticiper le mieux possible. Donc on a essayé d'établir des scénarios pour regarder un petit peu quelle allait être la situation en Normandie au vu des grands indicateurs liés au changement climatique. Et puis après, on décline ça sur un certain nombre de problématiques, et en effet, la biodiversité, c'est quelque chose d'essentiel. On a la chance en Normandie d'avoir une richesse absolument incroyable. On a à la fois des côtes, on a des forêts, on a vraiment une richesse très importante. Et donc par rapport à ça, la région a déjà largement travaillé sur ce sujet au cours de la mandature précédente avec les acteurs concernés justement pour créer les conditions de cette biodiversité. Donc c'est très clairement un objectif, une ambition d'Hervé Morin, de la région Normandie, d'être sur des actions concrètes, pas uniquement sur des grands discours, mais de réussir à sensibiliser, à changer nos comportements pour faire en sorte, vous savez qu'en France, on a un vrai problème, et sur la planète, avec des espèces, des dizaines d'espèces qui disparaissent. Et donc l'objectif, c'est à la fois de protéger les espèces qui sont menacées de disparition et d'en faire aussi, d'en développer des nouvelles. Mais ça passe, vous savez, par des choses extrêmement concrètes, sur des mares très localement, qui sont sur lesquelles on réinstaure, on remet de la vie, et on recrée des écosystèmes là où ils ont disparu.
On continue avec le sujet de l'enseignement. Vous souhaitez, pendant cette nouvelle mandature, accueillir un nouvel établissement d'enseignement supérieur par an. Quels sont vos arguments pour inciter de nouveaux établissements à venir s'installer dans la région ?
Alors là, l'enseignement supérieur, c'est un sujet très important par rapport à l'attractivité de notre région. C'est aujourd'hui un petit peu un des points de fragilité de la région, c'est que si on compare à d'autres régions françaises, on a moins d'établissements d'enseignement supérieur, ce qui fait que vous avez beaucoup de Normands qui quittent leur région pour aller faire leurs études supérieures, et parfois, ils ne reviennent pas dans la région. Et donc, c'est un élément fort de l'attractivité de réussir à être vraiment à avoir des établissements d'enseignement supérieur compétitifs. Alors on a des pôles universitaires importants à Rouen, à Caen, au Havre. On a aussi un certain nombre d'écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir ouvrir et de mailler le territoire avec des écoles qui correspondent aussi aux besoins des territoires et aux besoins de l'économie locale. Et l'objectif, c'est qu'on soit plus obligé de partir de Normandie pour se former, pour trouver un travail sur le territoire normand. Et donc, il y a des contacts qui sont pris. Par exemple, il y aura des contacts aussi avec l'Institut d'études politiques de Paris qui pourrait ouvrir de nouvelles antennes en Normandie, avec un certain nombre d'écoles. Et il faut, dans le cadre de la négociation que nous avons avec l'État sur le contrat de plan État-Région, obtenir des financements importants pour la recherche. C'est extrêmement important. Il y a des financements européens considérables sur la recherche dans le cadre du FEDER, le Fonds de développement régional européen. Et on doit prendre toute notre place dans ce monde européen de la recherche.
Passons maintenant au volet santé de votre programme. Quelles sont vos propositions pour les hôpitaux et comment, selon vous, améliorer l'offre de soins ?
Alors les hôpitaux, ça c'est une compétence de l'État, hein, mais en revanche, l'idée c'est aussi dans le cadre de la contractualisation de pouvoir développer des maisons médicales, de pouvoir aussi utiliser toutes les nouvelles technologies pour développer la télémédecine, et on a des fonds là-dessus. Je vous parlais à l'instant des fonds européens. Je vous prends un exemple dans ma commune de Louviers, on a créé une maison médicale avec des médecins libéraux qui a été financée à 75% par du FEDER. Et donc il y a un effet de levier extrêmement important, et la désertification médicale, elle ne concerne pas que les campagnes, elle concerne aussi les villes. Et donc il faut agir en partenariat également avec les conseils départementaux et avec l'État, bien sûr, avec les ARS, pour permettre de développer l'offre de soins dans sa globalité. Il y a la question du nombre de médecins, mais il y a aussi la question des équipements, par exemple d'imagerie médicale. Et là-dessus, il faut aussi que la région elle puisse faciliter, favoriser ces investissements importants, parce qu'on sait qu'il en va de l'attractivité d'un territoire. Un territoire sans structure médicale, sans médecins, ce n'est pas un territoire attractif pour que des gens viennent y habiter.
Et on l'a vu, la crise sanitaire que nous traversons encore aujourd'hui, elle a mis en exergue un manque cruel d'infirmiers et d'aides-soignants. Qu'est-ce qu'une région comme la Normandie peut faire à son niveau pour améliorer cette situation ?
Alors la région, elle a une compétence en matière de formation et elle crée justement des écoles d'infirmiers, des écoles pour qu'ils forment au métier de la santé. Et donc ça, c'est des choses extrêmement concrètes qui ont déjà été faites et qui vont se poursuivre, je crois à Évreux notamment, mais dans l'ensemble des 5 départements normands, parce qu'en effet, on a besoin de former les jeunes normands à des métiers dont on a besoin, et notamment dans ce secteur médico-sanitaire. C'est absolument essentiel, vous l'avez dit à juste titre, on a bien vu que la crise sanitaire aujourd'hui, elle nous mettait vraiment face à nos responsabilités, et que c'est un secteur absolument stratégique, comme d'autres secteurs, la sécurité, mais vraiment la santé, c'est aujourd'hui le secteur d'avenir, et il y a toute une économie qui se développe, il y a un enjeu sur la formation, mais aussi l'économie de la santé, l'allongement de la durée de vie qui est très important. On veut aussi venir en aide aux aidants des personnes qui viennent aider des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et il faut aussi penser aux personnes qui les aident avec des maisons de répit. Et ça, on y travaille notamment sur Elbeuf. Donc c'est tout un environnement favorable à la santé et qui passe aussi par la question sport et santé, la question du bien-être. Et c'est tout ceci sur lequel la région peut intervenir dans le domaine d'une politique publique de la santé en lien avec des initiatives qui sont aussi des initiatives de l'État, puisque c'est l'État qui a la compétence de la santé.
François-Xavier Priolo, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Vous pourrez retrouver dans quelques instants l'émission en entier sur notre site bpmlaradio.com en podcast. Et sachez que dès lundi matin à 6h30, vous retrouverez un journal spécial de la rédaction de BPM avec tous les résultats du second tour qui aura lieu ce dimanche 27 juin. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.